Page suivante, encore de nouveaux arrivants. Article tiré du Caméra de Boulder, Colorado. Photo d'une douzaine de blouses blanches sur la pelouse de l'hôpital de Boulder. Annie au second rang, un cercle vide de toute expression, en fait de visage, sous la coiffe blanche barrée de noir. Levée de rideau sur un nouveau spectacle, en dessous la date, 9 mars 1981. Elle avait repris son nom de jeune fille. Boulder. C'est à partir de là que Annie était devenue définitivement cinglée. Il se mit à tourner les pages de plus en plus vite, avec une horreur grandissante, tandis que deux pensées ne cessaient de le travailler. Par quel extraordinaire hasard ne l'avait-on pas soupçonné plus tôt? Par quel extraordinaire hasard leur avait-elle filé entre les doigts? 10 mars 1981, longue maladie. 14 mai 1981, longue maladie. 23 mai, longue maladie. 9 juin, courte maladie. 15 juin, courte. 16 juin, courte. Courte, longue. Courte, longue. Courte, longue. Entre ses doigts, les pages bégayaient. L'odeur d'amande de la colle à papier lui parvenait, à peine perceptible. Seigneur, mais combien en a-t-elle tué? Si chaque nécrologie consignée dans l'album correspondait à un meurtre, son tableau de chasse dépassait alors la trentaine de victimes à la fin de 1981, toutes sans le moindre soupçon des autorités. Certes, la plupart des victimes étaient âgées et les autres en fort mauvais état, mais tout de même, on aurait pu penser que... C'est en 1982 que Annie avait fait son premier faux pas. La coupure du Caméra du 14 janvier s'accompagnait d'une photo où l'on voyait son visage vide, pétrifié, rendu en petits points de Bellino, tandis que le titre annonçait « Nomination d'une nouvelle infirmière chef à la maternité ». C'est le 29 janvier que les décès avaient commencé à la maternité. Avec sa méticulosité habituelle, Annie avait conservé la chronique de toute l'histoire. Paul n'eut aucune difficulté à en suivre le déroulement. Si les gens qui étaient à vos trousses avaient disposé de cet album, Annie, vous vous seriez retrouvé en prison ou dans un asile sous haute surveillance jusqu'à la fin des temps. Les deux premiers décès de bébé n'avaient provoqué aucun soupçon. L'un des deux était atteint de malformations sévères. Mais les bébés, un peu ratés ou non, ce n'est pas la même chose que les vieillards qui meurent d'insuffisance rénale ou les victimes d'accidents de voiture encore vivants avec la moitié de la tête en moins ou un trou de la taille d'un volant dans la cage thoracique. En plus, elle s'était mise à tuer ceux qui étaient en bonne santé en sus de ceux qui n'allaient pas bien. Il supposa que, prise dans une spirale psychotique ascendante, elle s'était mise à tous les voir comme de pauvres petites bêtes. Choses. À la mi-mars 1982, on comptait déjà 5 morts d'enfants à la maternité. On lança une enquête détaillée. Le 24 mars, le Caméra désignait le coupable présumé, un lait maternisé infecté. On citait une source autorisée appartenant à l'hôpital. Et Paul se demanda si cette source n'aurait pas été Annie Wilkes elle-même. Un autre bébé était mort en avril, deux en mai. Puis, en première page du Denver Post du 1er juin, décès d'enfant, l'infirmière chef interrogée. Aucune inculpation de prononcer pour le moment, déclare le porte-parole du bureau du shérif. La police interroge actuellement Annie Wilkes, l'infirmière chef de la maternité à l'hôpital de Boulder, au sujet des décès de 8 enfants intervenus dans son service au cours d'une période de quelques mois. Tous ont eu lieu après la nomination de Miss Wilkes à ce poste. À la question « Miss Wilkes est-elle en état d'arrestation ?» Tamara Kenselving, porte-parole des services du shérif, a répondu que non. À la question « Miss Wilkes est-elle venue ici de son plein gré pour donner des informations sur l'affaire ?» Madame Kinsolving a admis que ce n'est pas ce que je dirais. Les choses sont un peu plus sérieuses que cela. Enfin, à la question de savoir si Miss Wilkes était inculpée, elle a déclaré « Non, pas pour le moment ». Le reste de l'article était un résumé de la carrière d'Annie. Il était évident qu'elle avait très souvent changé de lieu d'exercice, mais pas la moindre allusion au fait que les gens avaient tendance à casser leur pipe lorsqu'elle était dans les parages. Il étudia la photo qui accompagnait l'article. Fasciné. Annie entre deux flics. Mon Dieu, Annie entre deux flics. L'idole non pas à terre, mais ébranlée. Elle montait une volée de marches de pierre accompagnée de deux solides policières, le visage morne, vide d'expression. Elle portait son uniforme d'infirmière et des chaussures blanches. Page suivante. Wilkes relâché, une mère interrogée. Elle s'en était tirée. D'une manière ou d'une autre, elle s'en était sortie. Le moment était venu pour elle de disparaître dans le brouillard, pour réapparaître ailleurs, dans l'Idaho ou l'Utah, voire en Californie peut-être. Au lieu de cela, elle était retournée travailler. Et au lieu de la colonne habituelle « Nouveaux arrivants » de quelques villes un peu plus loin à l'ouest, s'étalait un gros titre du Rocky Mountains News du 2 juillet 1982. L'horreur continue, trois nouveaux décès d'enfants à l'hôpital de Boulder. Deux jours plus tard, la police arrêtait un homme de service portoricain pour le relâcher au bout de 9 heures. Puis, le 19 juillet, le Post et le News annonçaient tous les deux l'arrestation d'Annie. Il y avait eu une brève audition préliminaire au début du mois d'août et le procès s'ouvrit le 9 septembre. Elle avait à répondre du meurtre d'un nouveau-né, une fillette âgée d'un jour, la petite Christopher, mais également de 7 autres chefs d'accusation de meurtre au premier degré sur des enfants. L'article relevait que certains de ces enfants avaient vécu assez longtemps pour recevoir un prénom. Disséminé au milieu des comptes rendus d'audience, il y avait des « lettres aux journaux » que le Post et le News avaient reproduites. Paul eut l'impression qu'elle avait sélectionné les plus hostiles, celles qu'il a confirmées dans sa conception méprisante de l'humanité en tant que « homo morvux », car elles étaient toutes d'une grande violence. Annie semblait avoir fait le consensus contre sa personne. La pendre était une mort trop douce pour elle. L'un des correspondants l'avait surnommé le dragon femelle, épithète qui lui resta pendant toute la durée du procès. La plupart des gens paraissaient estimer que le dragon femelle méritait d'être lardé à mort à coups de fourche chauffée à blanc, et une bonne partie se disait prêt à faire office de bourreau. À côté de l'une de ses lettres, Annie avait écrit d'un trait tremblant inhabituel qui avait quelque chose de pathétique « Bâtons et pierres me romperont les os. Jamais les mots ne m'atteindront. » Manifestement, la plus grosse faute d'Annie avait été de ne pas s'arrêter lorsqu'on avait fini par se rendre compte que quelque chose d'anormal se passait. Ça sentait mauvais pour elle, mais pas assez malheureusement. L'idole n'avait fait que légèrement vaciller. Le dossier de l'accusation se fondait uniquement sur des circonstances et était par moments tellement mince que l'on aurait pu lire à travers. L'avocat général disposait comme élément d'une marque de main sur le visage de la petite Christopher, correspondant par ses dimensions à celle d'Annie, y compris la trace de la bague avec améthyste qu'elle portait à l'annulaire de la main droite. Ses autres atouts étaient les entrées et les sorties de la maternité d'Annie Wilkes, que l'on avait pu recouper et qui correspondaient en gros au décès des enfants. Mais Annie était après tout l'infirmière-chef de la maternité, si bien qu'elle était constamment appelée à y entrer ou à en sortir. La défense fut en mesure de multiplier les exemples où Annie était entrée et sortie de la maternité sans que rien d'anormal se fût passé. Paul trouva que cet argument revenait à prouver que les météores ne frappaient jamais la Terre en montrant que pas un seul, pendant une durée de 5 jours, n'était tombé dans le champ de Tartampion. Mais il comprenait néanmoins le poids de l'argument devant un jury populaire. L'accusation avait fait ce qu'elle avait pu pour resserrer les mailles de son filet, mais l'empreinte de main avec la marque de la bague resta le seul indice tangible qu'il fut capable de produire. Le fait que l'État du Colorado eût décidé d'inculper Annie, étant donné le peu de chances d'obtenir une condamnation sur une base aussi étroite, suggéra une supposition et une certitude à Paul. La supposition, Annie avait sans doute dû faire des déclarations extrêmement suggestives lors de son premier interrogatoire. Peut-être avait-elle même tenu des propos qui la condamnaient. Son avocat s'était débrouillé pour que la transcription de cet interrogatoire ne fût pas jointe aux pièces du procès. La certitude. La décision d'Annie de témoigner en son nom lors de la première audience avait été très maladroite. Son avocat n'avait pu faire exclure ce témoignage-là du procès. Ce ne fut pas faute d'avoir essayé. Et si Annie n'avoua jamais rien au cours des 3 jours qu'elle passa à la barre à Denver, il estimait qu'elle avait fait une confession implicite. Certains extraits des coupures de presse collées dans l'album étaient de vraies perles. Est-ce qu'il me faisait me sentir triste? Évidemment, si l'on songe au monde dans lequel l'on vit. Il n'y a rien dont je devrais avoir honte. Je n'ai jamais honte. Je ne reviens jamais sur ce que j'ai fait. Je ne m'arrête jamais à ce genre de choses. Si j'ai assisté aux funérailles de l'un d'eux, évidemment pas. Je trouve qu'il n'y a rien de plus sinistre et déprimant que des funérailles. De plus, je ne crois pas que les bébés aient une âme. Non, je ne pleure jamais. Si j'étais désolé? Je crois que c'est une question philosophique, non? Bien sûr, je comprends la question. Je comprends toutes vos questions. Je sais que vous êtes tous contre moi. Si elle avait absolument tenu à témoigner en son nom propre lors du procès, pensa Paul, son avocat aurait probablement dû la tuer pour la faire taire. L'affaire vint en délibéré devant le jury le 13 décembre 1982. Il tomba alors sur une stupéfiante photo dans le Rocky Mountains News. Photo où l'on voyait Annie tranquillement assise dans sa cellule et lisant « Miseris quest ». Misérable ? Demandait la légende en dessous. Où est le dragon femelle ? Annie lit paisiblement en attendant le verdict. Puis, le 16 décembre, elle fit les manchettes. Verdict pour le dragon femelle, innocente. On citait dans le corps de l'article un membre du jury qui demandait à rester anonyme. J'avais des doutes graves sur son innocence, en effet. Malheureusement, j'avais également quelques doutes raisonnables sur sa culpabilité. J'espère qu'elle sera inculpée sous d'autres chefs d'accusation, en espérant que le dossier sera un peu plus consistant cette fois. Tous savent ce qu'elle a fait, mais personne n'a pu le prouver. C'est comme ça qu'elle leur a glissé entre les doigts. L'affaire et ses séquelles occupaient encore 3 ou 4 pages. Le juge d'instruction déclarait tout d'abord que Miss Wilkes serait certainement inculpée à nouveau sous un autre chef d'accusation. 3 semaines plus tard, il prétendait n'avoir jamais tenu de tels propos. En 1983, début février, le juge d'instruction publia un communiqué dans lequel il disait que si le dossier des infanticides était loin d'être refermé, l'affaire Annie Wilkes était en revanche terminée. Elle l'aura glissé entre les doigts. Son mari n'est pas venu témoigner, ni pour elle, ni contre elle. Je me demande pourquoi. L'album contenait encore de nombreuses pages, mais à la manière dont la plupart étaient collées étroitement les unes aux autres, il comprenait qu'il en avait maintenant presque terminé avec l'histoire d'Annie Wilkes. Grâce à Dieu. La page suivante provenait du Sidewinder Gazette, en date du 19 novembre 1984. Des randonneurs avaient trouvé les restes mutilés d'un cadavre en partie démembré dans le secteur est du parc naturel de Grider. La semaine suivante, le journal donnait son nom. Andrew Pomeroy, âgé de 23 ans, de Coldstream Harbor, État de New York. Pomeroy avait quitté la côte Est pour rejoindre Los Angeles en autostop, au mois de septembre de l'année précédente. Ses parents avaient eu de ses nouvelles pour la dernière fois le 15 octobre. Il les avait appelés en PCV de Julesburg. On avait découvert le cadavre dans le lit asséché d'un cours d'eau. La police pensait que l'on avait pu tuer Pomeroy à proximité de la Nationale 9 avant de jeter le corps dans la rivière de la réserve naturelle pendant les crues de printemps. Le rapport du médecin légiste précisait que les blessures avaient été faites à coups de hache. Paul se demanda, la question n'avait rien d'académique, si la réserve naturelle de Grider était loin d'ici. Il tourna la page pour lire ce qui était jusqu'ici la dernière coupure de journal de l'album et s'arrêta de respirer. C'était comme si, après avoir pataugé dans une ambiance sinistre à la limite du supportable, de nécrologie en nécrologie, au cours des pages précédentes, il se trouvait tout à coup face à face avec la sienne. Pas tout à fait, mais assez pour que les autorités se mettent au boulot, fit-il, la voix basse et enrouée. L'article venait de Newsweek, dans la colonne des Transitions. Au-dessous du divorce d'une actrice de télé et au-dessus de la mort d'un roi de l'acier du Middle West, figurait ce petit texte. Disparu. Paul Sheldon, 42 ans, romancier surtout connu pour la série des Misery Chastain, histoire d'une orpheline évaporée, sexy et increvable. Disparition signalée par son agent Bryce Bell. « Je crois qu'il va bien », a déclaré Bell, « mais j'aimerais qu'il me contacte pour me rassurer, et ses ex-femmes aussi qui s'inquiètent pour leur compte en banque. » Sheldon a été vu pour la dernière fois à Boulder, Colorado, où il s'était réfugié pour terminer un roman. L'article avait 2 semaines. Disparition signalée. C'est tout. Simple disparition. Je ne suis pas mort. Ce n'est pas comme si j'étais mort. C'était pourtant la même chose qu'être mort. Et il eut soudain besoin de prendre ses médicaments, car il n'y avait pas que les jambes qui lui faisaient mal. Tout lui faisait mal. Tout. Il reposa soigneusement le livre en place et commença à faire rouler le fauteuil vers la chambre d'amis. À l'extérieur, le vent se déchaînait et lançait des paquets de pluie glacée contre la maison. Paul se recroquevilla sous la tempête, gémissant et terrorisé. Dans un effort désespéré pour se contrôler et ne pas éclater en sanglots. Une heure plus tard, bourré de cames et dérivant vers le sommeil, tandis que les hurlements du vent lui paraissaient maintenant plus apaisants qu'effrayants, il pensa « Jamais je ne pourrai m'enfuir. Pas moyen. Qu'est-ce que dit déjà Thomas Hardy dans Jus de l'obscur ? Quelqu'un aurait pu venir et calmer les angoisses de l'enfant, mais personne ne le fit, car jamais personne ne le fait. Exact. Très vrai. Pas la peine d'attendre le bateau. Il n'y a plus de bateau. Les redresseurs de tort sont trop occupés à faire de la pub pour des céréales. Et Superman tourne un film dans des décors de carton-pâte. Tu es livré à toi-même, mon petit Paul. Faut te débrouiller tout seul. Absolument tout seul. Mais c'est peut-être très bien comme ça. parce qu'au fond, qui sait si tu ne connais pas la réponse, hein ? Oui, bien sûr, il la connaissait. S'il voulait sortir de là, il fallait tuer. Oui, c'est ça la réponse. La seule réponse qui reste, je crois bien, c'est donc toujours le même jeu comme autrefois, Polly. Sauras-tu ? Il répondit sans la moindre hésitation. Oui, je saurai. Ses paupières se fermèrent lentement. Il s'endormit.